entendu à un niveau spirituel. C'est d'Abraham que sort Jacob, plus que de Noir. Comment? Oui. Et là, vous me permettez de dire une parenthèse que j'ai oubliée tout à l'heure. Lorsque vous étudierez le chapitre, les trois chapitres sur la prophétie dans Maïmonide, dans le livre des égarés, là nous comprenons mieux pourquoi Maïmonide tient à nous dire que tous les rêves des patriarches, que toutes les prophéties des patriarches étaient dans le rêve. Donc là, vous voyez à quoi ça se lève. C'est-à-dire qu'il faut arriver à Moïse pour que la prophétie soit les yeux ouverts. Mais là, il y a prophétie par prémonition, dans le rêve. Mais si les patriarches n'avaient pas rêvé, jamais Moïse n'aurait eu les yeux ouverts. En fin de compte, c'est ça. Et rêver dans ce sens-là. Alors, je termine là-dessus. C'est que, vous savez qu'en hébreu, le mot de Teva, qu'on traduit par l'arche, hein, c'est cela. Le mot de Teva, c'est une boîte, Teva. Et puis c'est aussi un mot, Teva. Le mot par excellence étant le nom de Dieu. Alors, essayons d'imaginer, si vous voulez, le propos du verset antérieur au verset pour Noir et pour Abraham. Nous allons le reconstituer facilement. Noir entend « construit une boîte et met ton corps dedans et sort-toi comme ça ». Voilà ce que Noir a entendu. Et la Torah, tranquillement, nous donne les dimensions de la boîte, avec un humour biblique fondamental, pour que nous sachions que le principe d'Archimède était connu de l'Arabe. Mais, il faut savoir, le cubage charnel de ce qui a sauvé dans le monde. Alors pour ça, il faut utiliser le principe d'Archimède. Qu'est-ce qu'il entend Abraham? Il entend « invoque mon nom sur le monde ». Et donc le projet, l'interpellation à Noir, l'interprétation à Abraham est fondamentalement la même. Mais Noir entend à un niveau matériel et Abraham entend à un niveau spirituel. Je vous montrerai ça très rapidement au tableau. La Torah nous donne les dimensions de l'arche et elle nous dit que l'arche avait une hauteur. Non, il y a un mot de chambre. Bon, non, ça marche là?
Oui.
Vous voyez, il y a... Vous voyez, quand le verset ne veut pas se laisser voir...
Ton modeste crayon. Non, mais
on voit... Voilà, écoutez, je vous le marque symboliquement.
Bon, allez, voilà.
Voilà, la hauteur se dit coma. La hauteur. La largeur se dit rocha. Et la longueur se dit over. Alors la Torah nous donne les trois dimensions, tant de coudées de hauteur, tant de coudées de longueur, tant de coudées de largeur. Mais les initiales de ces trois mots forment caro, ce qui signifie un haut. Caro bêché. C'est-à-dire que remé. Micro, ok?
Ah oui.
Couf, rechale. Coma, rocha, vorer. C'est-à-dire une indication, une invitation à Noir, invoque mon nom. Dans le monde et tu sauveras le monde. Alors qu'est-ce que Noir entend? Fabrique une arche et tu sauveras les corps. Mais c'est déjà pas mal ce que Noir fait. Vous comprenez?
Voilà,
il y a une sorte de rédemption à réaliser. Alors Noir réalise la rédemption physique, le moins à l'autre sens. Il sauve les corps, tandis qu'Abraham lui sauvera les âmes. Bon, mais tout ça c'est du vocabulaire très 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 français, et vous laissez ça de côté, le vocabulaire, mais vous comprenez, je pense que l'idée, le verset dit à propos d'Abraham, Vaïkra Bechel Hachem, il invoqua le nom de Hachem. Et alors les dimensions que nous donne la Torah pour l'arche sont très exactement les dimensions de la démultiplication de la valeur numérique des lettres du nom de Dieu. Vous multipliez 5 par 6, vous multipliez 5 par 6 par 10, et vous trouvez la dimension de l'arche. C'est-à-dire que c'est très exactement la même proposition qui est donnée à Noir qu'à Abraham, mais Noir l'entend à un niveau matériel, grossier, et Abraham l'entend à un niveau spirituel. Si vous avez une idée.
Oui, c'est
justement, j'ai fait allusion tout à l'heure à l'épisode d'Abimelech. Et si vous voulez, nous pouvons reprendre ça sur le texte. Néga, Halom Alayla, le rêve de la nuit. C'est-à-dire, c'est un. Vous avez d'ailleurs toute cette discussion dans les citations que vous avez là. Ça, c'est pour nous peut-être malheureusement un peu trop difficile à voir la discussion de détail, mais si vous voulez, j'essaierai de prendre le temps de la simplifier pour demain, nous prendrons cette question demain. C'est pas du tout le même rêve. Là, il y a un rêve de culpabilité. Abimelech a pris la femme d'Abraham en croyant qu'elle était sa sœur, en croyant qu'elle n'était que sa sœur, si vous voulez. Et alors, il y a une espèce de bref, prophétique, Dieu se révèle dans le rêve. Hein. Mais pour le juger, il ne s'agit pas de ce rêve de vision de qu'est-ce qu'il faut faire dans l'histoire pour que l'histoire ait un sens. Ça, c'est le rêve du juge. Ce rêve qui commence avec les patriarches. Explicitement, le texte nous dit que c'est Jacob qui est le premier qui a rêvé, mais Maïmonide revient sur ce problème en disant toutes les prophéties des patriarches étaient à travers un rêve. Je ne crois pas trop forcer l'analogie. En indiquant que Maïmonide a ce thème en tête. Oui. Ah, alors, nous arrivons à Macom. Ce Macom-là, c'est Jérusalem, ce n'est pas du tout Haram, mais ça nous avait enlevé rapidement. Oui, très rapidement compris. Je vais le lire, parce que ça nous permet d'approfondir un peu l'enseignement. Ce que je voulais surtout mettre en évidence, c'était la conception théologique que la galoute est le résultat d'une colère. Alors ensuite, on se demandera quelle est la nature de cette colère. La réponse à la question posée par le deuxième Midrash était dans la citation du premier. Vous prenez à la page 1122, Memoubet. Amrou, on a dit, on a enseigné, c'est dans les Galkout, on a enseigné, Galout mechaperet avon, l'exil expie la faute. Chenema, ainsi qu'il est dit, dans notre verset à nous, va yetse Yaakov, mi Bershava, va yetse Harana. Et Jacob est sorti de Bershava et est allé à Haran. Quel homme, c'est comme pour dire, Chaque fois qu'il y a quel homard, c'est très difficile. C'est avec qui ça veut dire c'est comme vous dites. Ou bien tu dis, ou bien tu dis pas. Dans les yeshivot, le quel homard, on le lit toujours, regardez bien les lettres, le quel homard, kaf la mentech, kulomar. C'est-à-dire ce verset-là, il est tout anti-amer. Alors avant d'arriver à l'adoucir, kloma. C'est comme pour dire, kivan shigatsa me'artso, vegala, puisqu'il a quitté son pays et qu'il a été exilé, halach harono shel hakadosh baruch hu mimenu. La colère de Dieu l'a quitté aussi. Il semblerait ici qu'il y ait une utilisation par le Midrash à titre de la théologie lui elle-même, de ce que j'ai dénoncé comme étant l'erreur de la théologie du péché originel. C'est la raison pour laquelle je ne voulais pas trop passer par là. Mais la lucidité de Michel nous oblige à le voir quand même. Eh bien, on découvrira d'abord que dans le Pshat, il s'agit de la colère des alus. C'est la colère des alus qui est prise en charge par Dieu, contre Jacob. Alors bien évidemment, il y a une colère à l'origine de la péripétie ponctuelle de cette exil. Mais ça doit être réintégré à l'intérieur du thème moral de l'explication donnée par le premier ouvrage que tu as cité. Je dirais très rapidement de la manière suivante. C'est que la raison pour laquelle Jacob, plus tard, donc je fais appel aux récits qui sont un peu postérieurs, va décider de promouvoir l'exil d'Égypte en envoyant Joseph se faire juger par ses frères, condamné et envoyé en exil, c'est que Jacob avait cru, en revenant de chez Laban, que la quantité d'exil prévue pour la descendance d'Abraham était déjà résolue par lui, qu'il avait pris cela sur lui. Vayeshev, Yaakov, c'était la paracha d'il y a 3 semaines, Vayeshev, Yaakov, Be'eretz, Megure, Aviv. Le récit commence par ce verset. Et Jacob s'installa, Vayeshev, dans le pays, il s'agit du pays d'Israël, en revenant chez Laban, dans le pays où ses pères étaient guéris, mais Gouré habite dans le pays, on traduit des voyages, des pérégrinations de ses pères, là où ses pères, Isaac et Abraham, se sont considérés encore comme guéris pour économiser du temps d'exil à leur descendance, lui s'est installé, là où il s'est installé. Et le Midrash continue en disant, et l'histoire de Joseph a bousculé tout cela, toc folo oxo chez Yosef. Et cette histoire de Joseph, c'est le commencement de l'exil d'Égypte, de ce long exil d'où Moïse fera sortir Israël. Alors le Midrash se pose la question, et qu'est-ce qu'a pensé Jacob à s'installer dans le pays, dans le sens de s'installer, Yishuv, hein, comme disent les sionistes, entre guillemets, alors qu'il pourrait rester encore en guerre, il pourrait rester dans l'exil. Eh bien, restitue le raisonnement suivant. Jacob sait que il y aura une dispersion de la descendance d'Abraham, c'est prévu à Abraham. Yado, Artedar, Kiger, Yed, Arab, et Retrolaim. Savoir, tu sauras, si ta descendance est vraiment Israël, il y aura la dimension de l'exil dans son histoire. Nous verrons dans l'un des midrashim de l'échelle. Et alors Jacob s'est dit, j'ai tellement souffert pendant ces 20 ans chez Laban, et 7 ans pour Rachel, 7 ans encore pour Rachel parce qu'on m'avait donné Léa entre-temps, et puis il ne croyait pas que les deuxièmes 7 ans c'était pour Léa, les 14 ans c'était pour Rachel, 2 fois 7 ans. Et puis 7 ans pour le troupeau, ça devrait faire 21 ans, et à la fin de la 20e année, Jacob est obligé de s'enfuir de la colère, enfin de la haine, de la balle. De nouveau, s'il reste chez Laban, il est perdu. Alors il faut qu'il s'enfuit, il rentre en Eretz Israël. Et c'était à cette année qui manquait. Là, je vous dis une chose assez énorme, il ne faut pas trop avoir de cauchemar, mais derrière, oui. Cette année qui manquait, un an, et donc on l'a payé cher. S'il y a une quantité de travail qu'Israël doit à l'humanité pour être Israël, alors il faut que le contrat soit honoré jusqu'au bout. Mais il a fallu s'enfuir un an avant. C'est très dangereux de quitter l'exil avant le temps. Ça, je vais dans ton sens. Mais si le temps est arrivé, c'est très dangereux de rester, on se fait assassiner. Ça, c'est le raisonnement de Jacob chez Laban. Il me manque un an. Un an, c'est rien, mais c'est énorme. Regardez cette année-là, ce qu'on a dû la payer. 400 ans en Égypte pour faire un an de Jacob. Et comme en Égypte aussi, il a fallu s'enfuir au bout de 210 ans seulement. Alors il est resté 190 ans d'Égypte qu'on réaménage. On a une gestion du temps d'exil qu'on réaménage autrement, mais qu'il a fallu payer dans l'exil précédent, qui a duré 1900 ans dans l'exil précédent, dans l'exil actuel, pour moi il est déjà précédent, en fait, et qui a duré 1900 ans, 10 fois 190 ans. C'est très exactement 1900 ans après la destruction du Beit Sheni qu'en 1967, Jérusalem nous a été rendue, exactement 1900 ans. Je n'ai pas dit a été conquise. Et et avec en plus les 70 ans d'exil intérieur à Babel, qui est un exil intérieur malgré tout. L'exil à Babel, c'est pas la même chose que l'exil d'ailleurs. Aujourd'hui on dit Brooklyn, enfin peu importe. Et du moins ça importe de savoir si c'est vraiment Babel. Alors si c'est vraiment Babel, boire la Babel. Mais le fond des choses, c'est qu'il a fallu récupérer cette année qui manquait. Est-ce que j'ai suffisamment répondu? Oui. Il y a donc là une indication importante. Oui.
Une autre question, là, c'est vraiment une question à laquelle il n'y a pas de réponse.
Ah, les autres, il y avait.
D'abord, ils montent en plus. Bon, je n'ai pas jamais compris ce Rashbam. Il connaît bien le Rashi, puisqu'il est ici, et de toute façon, c'est un Ephraim. Pour moi, ben, c'est un mystère.
Oui, très, très rapidement, mais je vais noter cela. Et puis, vous avez un texte dans les références. Nous, le lendemain, je vais arriver au Makom, finir de répondre à la question du Makom, mais peut-être on va prendre 10 minutes de plus tout à l'heure, ou bien plus simplement que demain, vous soyez là vraiment à 10h30, quand on commence à. Tout se passe comme si la préoccupation de
J'aurais quand même précisé que c'est l'assistance effectivement que nous attendons jusqu'à plus tard que 10h30 et non pas.
Oui, moi j'étais là à 5. Il semble bien que la préoccupation de Rashbam, c'est d'avoir affaire à des anges normaux, c'est-à-dire qu'ils commencent d'abord par descendre avant de remonter. Nous avons ici une citation, je ne vais pas vous la donner tout de suite, mais je la retrouvé sur les textes, qui dit depuis des péripéties antérieures, il y avait déjà des anges qui étaient sur terre et qui attendaient qu'il y ait une porte pour remonter. Et ils n'ont pu remonter qu'au moment où Jacob s'est mis à rêver. Mais ça va dans ce temps. Et on a même le nom de ces anges, qu'est-ce qu'ils faisaient sur Terre, etc. Oui, des choses un peu mystérieuses, mais au moins ce sont des anges normaux. Ils étaient d'abord descendus avant de remonter. Pardon ? Oui. Un sas, je ne sais pas comment on appelle ça en science-fiction.
On pourrait croire que ce que vous avez dit de la colère de Dieu sur le peuple d'Israël soit quelque chose dans la théologie chrétienne qui serait dépassé.
Attendez, une minute. Oui. Je note une phrase, parce que ce qui me manquait à répondre à Michel, vous me le redonnez. Oui, je vous écoute.
Oui. On pourrait croire que c'est dépassé dans la théologie chrétienne depuis Vatican II, mais j'étais très étonné, il y a quelques jours, en allant à l'église Saint-Eustache, où il y a un merveilleux spectacle de ballet lumineux au laser sur des textes bibliques, de voir l'histoire d'Israël présentée exactement selon un schéma
déicide,
oui. Encore aujourd'hui, et dans le programme qui est vendu pour 5 francs comme celui-ci, il est mis au moment où la colère de Dieu s'exerce sur Israël, il est mis, et les Juifs allait nu en chantant à la chambre à gaz. Vous voyez ? Alors, si vous allez. Et alors, ce qui est stupéfiant, c'est que c'est tellement enrobé d'un spectacle d'une beauté extraordinaire que tout le monde y va et personne n'entend ce que l'on vous serine comme ça. Et il y a un schéma pédagogique en 7-8 points, qui est extrêmement clair, et qui est envoyé comme ça et qu'on absorbe.
Il faut le signaler à la LICA.
Oui, je vais signaler à la LICA.
Oui. Eh bien, écoutez, voilà le point précis que je voudrais analyser, c'est ceci. Lorsque Jacob se rend compte qu'en fin de compte, la quantité d'exil qu'il avait à résoudre n'est pas terminée. Donc, voici le diagnostic qu'il a fait. Il y avait jalousie entre les frères. Alors, il a compris que l'exil n'était pas terminé. Et là, c'est assez fin comme distinction qu'il faut comprendre. Et nous verrons, si vous voulez, nous reprendrons ce texte. Jacob sait très bien ce qu'il fait en envoyant Joseph à Shrem, là où ses frères étaient. Ses frères l'attendent dans un endroit qui s'appelle Dothania, Dothan, l'endroit du jugement, c'est un Bet-Din. Ils ont jugé Joseph et ils l'ont condamné à sa vocation d'exil. Et le texte que je vous cite est rappelé par Rashi sur le verset qui dit que Jacob a envoyé Joseph à partir de Emek Hebron, la vallée de Hebron. Je vous donne le verset immédiatement si vous voulez, et le Midrash pose la question suivante. Pourquoi le texte dit-il que Hebron est dans une vallée? Hebron, c'est sur une montagne. Alors il dit non, voilà ce que le texte veut dire. Que Jacob a envoyé Joseph, mais etza amokam yotot tzadik akavur be Hebron, ce qui signifie, il s'est rappelé de la pensée profonde de ce juste qui est enterré à Hebron et qui est Abraham, à qui a été donné l'annonce de l'exil. Et alors, il envoie Joseph se faire exiler, d'une certaine manière. Mais quelle est la motivation? Lui croyait que l'exil est terminé. Il a pris sur lui le travail chez Laban. Il était en stage dans la civilisation des Blancs. Laban, ça veut dire blanc. Il n'est pas tellement blanc que ça, mais c'est comme ça qu'il s'appelle. Et il croyait que c'était terminé. Et puis voilà que l'histoire de Joseph remet tout en branle. Parce que Jacob a diagnostiqué que la faute, et non pas le péché, n'est pas encore arrangée. Les frères ne s'aiment pas encore suffisamment. Alors il faut recommencer. La fonction rédemptrice de la vocation d'exil, elle n'a pas qu'une fonction rédemptrice, mais quand elle a une fonction rédemptrice, c'est oublier les Juifs à s'aimer entre eux. Et à partir du moment, nous en avons parlé un peu hier, hein, à partir du moment où Joseph, l'homme fraternel, naît du peuple juif, alors l'exil est terminé. Mais inversement, lorsque Jacob diagnostique qu'il y a sinat finam, haine gratuite, que l'équation de fraternité n'est pas résolue, alors il faut de nouveau aller en voyage. Et vous voyez comme c'est à la fois très parallèle et très distant de la conception de la théologie chrétienne. Cette colère de Dieu contre Israël porte sur le fait que on ne pratique pas suffisamment « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Parce que c'est cela le message d'Israël. Achai, mes frères, y a-t-il la paix? Mais ça a été mythifié dans ce mythe magique de la conjuration par le meurtre du Fils de Dieu, et de cela Israël est accusé. Mais ce dont nos textes accusent Israël dans la catégorie de la colère de Dieu, comme déclenchement de l'exil, c'était sinatrinam, le fait qu'on ne s'aime pas entre nous. Est-ce que c'est plus clair cela? Mais c'est pas autre chose que ça. Et je voudrais une petite parenthèse que j'ai peut-être citée une fois. J'ai eu une fois une explication extraordinaire que j'essaierai de schématiser de la manière suivante. Les non-juifs nous ont accusés, pendant des siècles et des siècles, de deux choses fausses. D'une part, d'être infidèles à la loi de Dieu, et c'était faux. Rappelez-vous vos grands-parents à quel point ils étaient fidèles. Vous voyez ce que je veux dire? Et je ne veux pas dire les ancêtres, nos propres grands-parents dans tous les ghettos du monde. Et on était fidèles comme c'est pas possible, d'ailleurs c'est pas possible. Mais d'être fidèle à ce point. Et puis, ça c'était faux. Et puis deuxièmement, je crois qu'il y a toute une œuvre de réhabilitation à faire. Les juifs sont vraiment soumis à la loi. Et lorsque on les laisse être juifs normaux, lorsqu'il n'y a pas toutes ces séductions violentes ou non violentes de détournement d'identité. Et puis, vous n'avez pas remarqué ça, que les juifs croient à n'importe quoi pour nous qu'on leur donne quelque chose à croire. Et ils obéissent à n'importe quoi pour nous qu'on leur donne quelque chose à obéir. Et ils s'engagent dans n'importe quoi pour nous qu'ils aient quelque chose à s'engager. Vous n'avez pas remarqué ça? Les juifs sont vraiment des ma'amilim, des ma'amilim. Trop. Eh bien, ils sont au service de tous les services, sauf le leur. Car oui, je dis le matin. Et puis, comme on disait au Moyen-Âge, eh bien, un juif, c'est un serviteur du Seigneur. Pourtant, la féodalité, vous rappelez, il servait le Seigneur. Et qu'est-ce que je disais juste avant? Oui, le deuxième reproche, c'est que on est solidaire. Mais alors, ils se tiennent entre eux, ils s'aiment bien. Ça, c'était faux. Ça aussi, c'était faux. Alors, vous comprenez ce que je dis? Les deux choses sont fausses. Et là, ce rabbin explique de la manière suivante. Et la Gemara donne deux enseignements apparemment contradictoires à propos de l'exil qui commence à la destruction du deuxième temple. Elle dit, les fautes commises au temps du premier temple ont été connues, et donc la quantité d'exil qu'il fallait pour les expier est aussi dévoilée par les prophètes et connue. C'était la faute d'idolâtrie, vous rappelez, de débauche, meurtre, violence, et c'était la destruction du premier temple, Gil Ariot, Firudamim, Avodazara, et les prophètes prophétisent, enfin c'est surtout Daniel qui indique le chiffre, mais 70 ans, mais Jérémie déjà, 70 ans d'exil. Et au bout de 70 ans, le Baït Sheni commence déjà à se préparer, le retour et la construction du deuxième royaume de Juda. Tandis que la faute qui a causé la destruction du deuxième temple, dit la Gemara, n'est pas connue, alors le temps que devra durer l'exil précédent, contemporain, n'est pas dévoilé. Enfin, n'est pas dévoilé, les kabbalistes avaient la programmation, mais n'est pas dévoilé, en tout cas, connu, mais pas dévoilé. Mais c'est contradictoire avec le fait que cette même Gemara va nous dire, on connaît cette faute, et c'est pas autre chose que sinatrinam, c'est-à-dire la rivalité des frères entre eux. Voilà l'explication qu'il a donnée. La faute était connue, mais elle n'était pas dévoilée. Personne ne se rendait compte qu'on était dans cette faute. Tout le monde faisait comme si les Juifs s'aimaient entre eux, se tenaient, oui, comme disent les anti-Juifs. Mais ce n'était pas vrai. Alors, voilà ce qui s'est passé. Tant que les Juifs étaient pieux, soumis à la loi comme ce n'est pas possible, on n'arrivait pas à voir qu'ils avaient cette faute-là, de ne pas s'aimer entre eux. Mais alors, donc, la fin de l'exil ne pouvait pas arriver, puisque ça ne se dévoilait pas. Ils étaient tellement pieux que ça ne se voyait pas qu'ils ne s'aimaient pas entre eux. Ça va jusque-là? Alors Dieu a fait venir l'assimilation pour que les Juifs ne soient plus pieux et pour qu'ils se dévoilent qu'ils ne s'aiment pas entre eux. Alors ils ont été punis, ils ont tellement souffert qu'ils ont été solidaires entre eux et Dieu les a sauvés. Vous voyez toute l'histoire contemporaine expliquée par cette explication. C'est très schématique ce que je vous dis là, mais je pense qu'il y a là un éclairage extrêmement important. C'est-à-dire que nous avons été obligés par les persécutions de l'exil à devenir Joseph. Et dès que nous sommes devenus Joseph, il y a eu la fin de l'exil. Je pense que c'est clair. Mais il a fallu passer par une stratégie. Je n'aborde pas complètement cette explication, je vous la cite comme citation. Mais il y a toute une stratégie difficile à intégrer, mais enfin qui rencontre quand même de la péripétie de l'histoire. Jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, qu'est-ce que c'est un juif? Il sert le Seigneur, tous les seigneurs. Hein? Donc, c'est pas visible que les Juifs ne s'aiment pas entre eux. Ils sont tellement pieux. Alors, on va arrêter le temps de la piété juive, parce que l'heure avance, il faut que le Messie soit envoyé un jour. Et alors, on est presque à la 11e heure, on est déjà un peu plus avancé. Mais, et alors, il faut faire quelque chose. Alors, donc, l'assimilation est arrivée. Les Juifs n'ont plus été pieux. Alors, ils ont été punis, mais ils ont tellement souffert qu'ils se sont aimés entre eux. Et ça a suffi, ce moment d'amour universel des Juifs entre eux. C'est le moment où on fonde les grandes organisations de solidarité juive internationale, les grands... Vous voyez ce que je veux dire? Alors, puisqu'ils ont fait la preuve qu'ils s'aiment entre eux, alors on peut mettre fin à l'exil. Voilà à peu près l'explication. Je pense que c'est clair. Voilà. Et s'il n'y a pas d'autres questions, mais rapidement, oui.
Il y a quelque chose qui m'avait fait confiance à l'intervention à propos du spectacle de l'église. Que moi, je n'ai pas compris, je ne sais pas. Vous me répondez du moment, c'est la question de qu'est-ce qui traverse monsieur, qu'est-ce qui l'intéresse. Je pose la question.
Ah,
je n'ose pas la poser directement parce qu'il n'y a pas un dialogue dans la salle.
bien sûr, que des juifs donnent leur lecture de l'histoire, de ce qui s'est passé dans les dernières générations, ça n'est pas gênant. Mais que d'autres chrétiens disent que la malédiction s'est exercée sur les juifs en raison de leur faute, et que après cette destruction, lorsqu'on voit ce schéma, après cette destruction, le germe revient, le reste ne surgit pas du milieu des juifs, mais de l'extérieur, et le spectacle se termine, enfin, l'histoire d'Israël est terminée, et c'est l'annonce de Jésus, etc., qui arrive. C'est ça qui est assez
oui, gênant. J'ai compris les choses, excusez, de façon très analogue, c'est-à-dire qu'on présente la Shoah, le massacre des Juifs, comme un sacrifice d'expiation, et qu'on appelle un holocauste d'ailleurs, par abus de langage, alors que ça veut dire en hébreu Shoah, ça veut dire catastrophe, et bien, de telle sorte de déculpabiliser les nazis eux-mêmes, et de récupérer ce sacrifice pour la vouloir du christianisme, parce que voilà, vous voyez bien, comment les juifs vivent la passion du Christ. Donc c'est la passion du Christ qui est vécue par les juifs, mais c'est la passion du Christ qui est rédemptrice. Alors deux choses. D'une part, on récupère l'épaisseur de l'histoire juive pour nourrir le mythe de la passion, et d'autre part, on déculpabilise l'antisémitisme théologique. Et effectivement, c'est très grave. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, sinon on embraye pour le quart d'heure qui nous reste dans le verset lui-même. Bon, alors vous prenez le verset 11. Vous y êtes ? Alors le verset dit « Vaïvga Bamakom », il se heurta à l'endroit. Et ici apparaît tout un enseignement talmudique, j'espère que nous aurons le temps et le courage de l'aborder, sur le fait que ça veut dire en réalité, il a été obligé par une stratégie de Dieu qui, à travers des événements cosmiques, arrête le soleil, fait coucher le soleil plutôt, et puis oblige Jacob à passer la nuit là-bas, sur son chemin, avant vers Haran, il va passer très près de Jérusalem. Et puis, différents textes qui montrent que, par une stratégie donnée, il va être bloqué à Jérusalem et obligé de prier là-bas. Et que ici, se heurter à l'endroit, ça veut dire en réalité prier. Et là, j'espère quand même que nous aurons demain ou après-demain le loisir de faire un texte du Talmud à ce sujet. Et puis, donc, il passe la nuit là-bas parce que le soleil s'est couché. Et il prend des pierres de l'endroit, il protège sa tête par ces pierres. Il va se produire ici un événement important. Les pierres étaient d'abord multiples, et ensuite ce sera une pierre. On essaiera de comprendre cette unification des pierres multiples en une seule pierre, et tout ce que le Midrash peut comprendre à travers cela. Et il se couche là-bas. Avant d'aborder la définition de l'endroit à travers Rashi, je vais vous citer de mémoire un très beau commentaire de Rabbeinu Bechaye sur son commentaire sur la Torah, et qui nous dit, d'après tous les textes, cet endroit, c'est l'endroit du temple. Et il y a déjà dans le verset une allusion à trois temples. Il y a trois fois le mot Makom dans le verset. Alors il nous dit ceci, Vaïvga Makom, il se heurte à l'endroit, ça c'est allusion au premier temple, Vaïvishon. Vaïvga Nsham qui va à Shemesh, il passe à la nuit là-bas et on voit le soleil se coucher. Déclin, je cite Rabbeinu Bechaye, il voit que ce temple sera détruit. Vaïkar merde à Makom, il prit des pierres de l'endroit, deux fois le mot Makom, ça c'est le deuxième temple, qui était moins important que le premier. Pas toutes les pierres de l'endroit, pas tout le résultat des ruines de l'endroit précédent, les pierres c'est le reste de l'édifice lorsque l'édifice est détruit. Et mais il prit merde à Makom, des pierres de l'endroit, le deuxième temple sera diminué par rapport au premier. Et après, Vaïkar va Makom Aou. Là, c'est le troisième temple, et celui-là ne sera pas détruit. C'est une citation en passant de Rabbeinu Bechaye. Alors, prenons tout de suite Rashi. Rashi dit, « Lo hispira katou ve'ezemakom » Le texte n'a pas mentionné, ne nous fait pas mentionner de quel endroit il s'agit. Par conséquent, nous devons faire le raisonnement suivant, et là, donc, Bamakom, Haniskar, il arrivera à un endroit déjà mentionné par le texte précédemment, un endroit connu. Et le lecteur du récit est censé savoir de quel endroit il s'agit, puisque le texte dit, et il se heurta à l'endroit par excellence, Makom. Vous savez d'autre part que le mot de Makom est un des mots dont l'hébreu traditionnel se sert pour dire Dieu lui-même. Il se heurta à l'endroit, à un endroit déjà connu, lequel Makom Acher, un autre endroit, dans un autre endroit du texte, Ruhar Moria, c'est la montagne de Moria, Chenéa Marbo, à propos de laquelle il est écrit au chapitre 22, précédemment, Vaya et Amakom Merachok. Et Abraham vit l'endroit qui lui était désigné pour le sacrifice d'Isaac, il vit l'endroit de loin. Par conséquent, nous avons une indication bien précise, c'est que Jacob est arrêté à un endroit où il aurait dû en principe se diriger par lui-même. Et le thème qui apparaît là, c'est l'endroit où Abraham a inauguré le sens de l'histoire d'Israël par la scène de Akedat Yitzhak, qu'on traduit habituellement par le sacrifice d'Isaac. Dans cet endroit, il y a des clefs. Alors nous allons faire le raisonnement sur le texte. Vaïkar Bamakom, il se heurta à l'endroit. Vaïkar Encham, il passe à la nuit là-bas. Kiba Hachemesh, parce que le soleil s'est couché. L'ordre du texte aurait dû être, le soleil s'est couché, alors il a passé la nuit là-bas. Étant donné que nous avons un ordre inverse, et il passe la nuit là-bas parce que le soleil s'est couché, on va donc apprendre immédiatement que le soleil s'est couché pas en son temps. Il a été obligé de passer la nuit là-bas parce que le soleil s'est couché. Et c'est normalement ainsi, mais l'ordre dans le verset est inverse. Vous comprenez bien ce que j'essaie de d'indiquer. Alors, vous sautez le rachis sur Vaïga, vous prenez le rachis suivant à la page 1125, qui va à la chemin. Hayanon Istov, le texte aurait dû écrire Vayabo Hashemesh Vayalencham. Le soleil s'est couché et il dormit là-bas. Kiba Hashemesh, parce que le soleil s'est couché, cela signifie Mashma, Sheshach Halohama, Piton, Shelo Veronata, Kede Sheyalincham. Que le soleil s'est couché pour lui subitement et pas en son temps, afin qu'il soit obligé de passer la nuit là-bas. Nous avançons dans Rashi. Voyasem Marachotav, après avoir pris des pierres de l'endroit, il les place, il les donc traduit comme pierres d'oreiller, ou protection autour de sa tête. Rashi nous dit, Asahan, Kemim, Marzev, il en a fait comme une sorte de vous avez dit rempart tout à l'heure, ce mot signifie lorsqu'on entoure quelque chose pour le protéger. Par exemple, en hébreu moderne, une fracture est mise dans un emplâtre, une gouttière, disait. C'est exactement le sens que nous avons dans l'hébreu moderne. Vous voyez, un peu comme une gouttière incurvée. Donc. Samu de Rocho, autour de sa tête, parce qu'il craignait les bêtes sauvages. Alors les pierres ont commencé à se quereller l'une avec l'autre. L'une disait, c'est sur moi que ce juste doit poser sa tête. Et l'autre disait, c'est sur moi qu'il doit poser sa tête. Alors Dieu en a fait une seule pierre, et c'est ce qui est dit dans un verset suivant, que je vous dis tout de suite, la référence, c'est le verset. Verset 18, oui. Et il prit la pierre dont il avait fait son oreiller, il en fit une stèle, et il fit une libation d'huile. Donc les pierres sont devenues la pierre. C'est donc ce que dit Rachid, ce que dit le verset suivant. Il prit la pierre qu'il avait placée comme oreiller. Là je pense, alors je annonce le programme du début de l'étude de le matin, nous allons avoir trois enseignements. Ces pierres, elle dit un premier texte, était au nombre de deux, et elle représente l'acquis d'Abraham et d'Isaac. D'autre part, notre texte dit que ses pères étaient au nombre de trois. Il y a l'acquis d'Abraham et d'Isaac, et déjà ce qui va être le commencement d'acquis de Jacob lui-même. Et puis un troisième ouvrage dit que ses pères étaient au nombre de 12 et représente les 12 tribus qui vont être issues de Jacob. Là, nous essayons quand même de mettre l'étude de façon plus exégétique, si vous voulez, en suivant le texte en détail. Simplement, je terminerai sur une introduction à cette analyse. Il y a dans ce ouvrage, de nouveau, ce thème historiosophique auquel nous avons fait allusion beaucoup encore aujourd'hui. Jacob, d'une certaine manière, va voir dans cette péripétie des pierres qu'il faut unifier un premier thème de destination de l'histoire de sa descendance. Et dans le Zohar, donne une indication sur ce mot de Even. Pas la peine que je me lève, mais vous allez visualiser vous-même. Vous voyez le mot de Even, en hébreu, qui signifie la pierre. Deux mots apparaissent. Premièrement, le mot de Av, le père, et deuxièmement, le mot de fils, Ben. Bon, laissez le vocabulaire chrétien de côté. Il y a dans Even la notion de Bnia. Bnia, ça veut dire la construction, mais ça veut dire aussi l'engendrement. Faire fils. Et il y a la notion de tolado, la notion d'engendrement qui apparaît là. Or, vont apparaître différentes modalités dans cet engendrement. Le problème à résoudre, c'est leur unification. De la même manière qu'Israël n'apparaît que lorsque ce qu'est Abraham et ce qu'est Isaac s'unifient. Abraham seul, ce n'est pas Israël. Isaac seul, ce n'est pas Israël. Il faut unifier. Et c'est Jacob qui est le principe de cette unification. Et puis, de la même manière, va apparaître à l'intérieur de l'identité Israël à partir de Jacob. Nous y avons fait allusion hier, deux fois au moins, un risque de rivalité intérieure. Chaque tribu, chaque manière d'être, vous vous rappelez à propos de l'expression « Kehal Amim », une assemblée de peuples. Chaque manière d'être Israël a une revendication d'exclusivité. C'est sur moi que ce juste posera la tête. Vous voyez ce que dit chaque pierre. Mais comme cette rivalité, elle est l'ishma, comme on dit en hébreu, comme cette rivalité est, comment dire, non pas désintéressée, puisqu'il y a un intérêt puissant, mais elle est authentique, elle est de l'ordre de la vertu, et non pas de l'ordre de la jalousie, alors la récompense, c'est l'unification. C'est-à-dire que si vraiment la revendication d'identité est au nom de l'authenticité, alors il y a rivalité, parce qu'il y a divergence. Réhouven n'est pas Shimon, Shimon n'est pas Lévi, Lévi n'est pas Yuda, etc. Mais si vraiment leur rivalité est dans cet ordre-là, Allah Yaniar Tzadik et Trocho, que sur moi ce juste repose sa tête, alors la récompense est dans l'unification même. Et c'est le thème que nous aurons à étudier en détail demain. Oui ?
Je voulais savoir s'il y a la relation avec. La pierre du puits qui se lève pour Rachel, de laquelle va découler
l'identité. Bien, je vous avoue que je n'avais pas pensé à cette relation, mais elle m'apparaît clairement maintenant que vous l'avez dit. Mais à Eben de Dola, à Pierre, et la pierre était grande sur la bouche du puits. Certainement. Certainement, c'est la pierre qui nous aide. Ça, c'est Ibn Ezra. Okay.